Bienvenue à cette première table ronde du congrès du SNAPCGT, comment améliorer le quotidien des artistes auteurs, avec Vélémina Huguet, juriste à la SAIF, Fabrice Gertz, salarié de l'URSSAF Limousin, et Colline Bourret pour la LFI Union Populaire.
Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste auteur, l'artiste autrice au travail, compose et se confronte au quotidien, notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 1, rencontre et présentation.
Donc, d'abord je commence donc par me présenter. Le modérateur, je suis Gilles Fromonteil, je suis artiste, plasticien, école des beaux-arts chez Jean-Claude, 82-87. Découvert le SNAP en 92, il y avait un garçon qui était là dans cette réunion qui m'a mis un panneau devant la table, il est marqué secrétaire général. Et donc j'ai été secrétaire général de 80, du SNAP CGT, donc de 92 à 2001. Je suis entre temps, j'ai été membre fondateur avec 12 personnes, dont Cartier-Bresson, Artus Bertrand, etc. Enfin bon, voilà, membre fondateur de la SAIF. La SAIF, c'est la Société des artistes, des auteurs de l'image fixe. De 2001 à 2011, alors j'étais administrateur de la Maison des Artistes de 1995 à 2014, presque 20 ans, et j'étais président du conseil d'administration de 2001 à 2011, suite à quoi Irène a pris la présidence de 2011 à 2014, quand il n'y a plus eu de conseil d'administration à l'organisme Maison des Artistes. Voilà, donc je vais donc passer la parole d'abord donc à Fabrice qui va se présenter.
Bonjour à tous et à tous. Alors, je suis Fabrice Gertz, ex-salarié de la Maison des Artistes de 1998 à fin 2018, puisque vous le savez tous, le transfert du régime a été fait au 1er janvier 2020 et le transfert des salariés au 1er janvier 2019. Je suis de l'URSSAF Île-de-France depuis le 1er janvier 2019. Donc, j'ai intégré la Maison des Artistes en 1998. Donc, en tant qu'agent de classement, et j'ai fini comme référent du recouvrement. C'est-à-dire que j'ai fait partie l'un des salariés à traiter les dossiers d'artistes-auteurs. Par rapport à la Maison des Artistes, nous, on a été... ça a été un clash, parce qu'on était près des artistes. Il y avait une proximité des artistes, il y avait un suivi. Quand il y avait un problème, quel qu'il soit, il était résolu. On avait des contacts au niveau de la CEPAM. On avait des contacts aussi au niveau des URSSAF, puisque le recouvrement, à l'époque, quand je suis rentré, c'est le recouvrement des cotisations, c'était par région. Maintenant, après, ça a été fait par le Limousin, et c'est pour ça que le Limousin a récupéré le régime. Ensuite, au niveau des salariés, effectivement, la majorité des salariés qui ont été transférés dans les URSSAF, la moyenne d'âge, c'est plus de 50 ans. Ça veut dire qu'on repart à zéro, avec des formations à l'URSSAF, avec des outils informatiques qu'on ne connaissait pas. Donc, on a eu déjà une première approche avec le Limousin au niveau des outils informatiques. Ensuite, il y a eu le confinement. Ça ne nous a pas aidé parce qu'on avait, on n'avait pas d'aide. On avait des modes opératoires, il fallait qu'on se débrouille. Effectivement, les agents du Limousin venaient vers nous à savoir sur quelles difficultés on rencontrait. En retour, si on pouvait avoir des formations ou des explications en visio, ça s'est fait. Mais principalement, c'était complexe parce que nous, on ne connaissait pas du tout le fonctionnement de l'URSSAF. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'URSSAF Île-de-France, par rapport aux salariés qui ont été transférés, le transfert a été très compliqué. Dans le sens que Sur poste, je dirais que les agents ont progressivement monté en compétences et encore aujourd'hui, on monte encore en compétences. Mais c'est pour ça que je voulais dire aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que moi, j'ai une mémoire. Je me souviens, et certains dans cette salle vont peut-être le confirmer, c'est qu'à un moment donné, il a failli y avoir une fusion entre la Maison des artistes et la GESA. Nous, on ne voulait pas cette fusion à la Maison des artistes. Les artistes nous ont soutenus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je n'ai jamais laissé tomber l'artiste, même si je suis à l'URSSAF d'Île-de-France, et j'ai d'autres fonctions, peu importe. Mais je trouve anormal, et je l'ai dit, que ça soit à la CAUS, la maison mère, que ça soit à l'URSSAF d'Île-de-France. La CAUS, alors la CAUS, c'est, maintenant, ça a plus de nom, c'est URSSAF Caisse Nationale. En fait, la CAUS, c'est eux qui reçoivent les décisions des ministères de tutelle et qui répartissent dans les URSSAF, entre autres, hein, et qui supervisent tous les régimes ou les transferts qui vont être faits. C'est eux qui sont, si je peux dire, décisionnaires, et ils appliquent ce que les tutelles leur ont dit de faire par rapport à une loi de finances, notamment celle de la Maison d'artistes et de la GESA. Voilà. Donc, je l'ai toujours dit, et moi, je trouve anormal, effectivement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, à l'URSSAF, quelle que soit la profession, la personne prend un rendez-vous, à l'accueil physique ou téléphonique, elle a son renseignement, elle a une personne en face d'elle. Les auteurs, ils n'ont personne. On leur dit de s'inscrire à l'URSSAF, de remplir un après-EP 0. Ensuite, si vous voulez des renseignements, vous allez dans le rue du Faubourg Poissonnière, qui sont nos anciens locaux, où il y a 20 personnes qui sont restées, qui n'ont pas voulu venir à l'URSSAF, qui n'ont pas voulu le transfert de l'URSSAF. Ensuite, on leur dit, vous allez recevoir un dossier, c'est Limousin qui va vous l'envoyer. Si vous avez des problèmes au niveau des CEPAM, vous allez dans les CEPAM, enfin voilà.
Qui ne connaissent pas comment ça marchait avant, est-ce que tu peux essayer en deux minutes, raconter avec tes mots, vu de... tu étais personnel de... parce que moi, je pourrais le raconter aussi. J'étais aussi de, mais avec tes mots de personnel Maison des artistes, est-ce que tu peux raconter comment on travaillait avant et quelle a été la fracture?
C'est pas compliqué. C'est quand je vous dis qu'il y avait une proximité au niveau des auteurs à la Maison des artistes. C'est que je vais vous prendre un exemple tout simple. Un artiste venait à la Maison des artistes avec une facture pour s'inscrire. Peu importe le montant, même un euro, il devait remplir une déclaration début d'exercice, il la complétait, on l'enregistrait, il avait un numéro de maison d'artiste et une attestation. Ça, c'était la première chose, et il pouvait aller où il voulait. Voilà.
Alors, ça, excuse-moi Fabrice, je te coupe. Ça, c'est à partir de 98, parce que avant, on n'était pas au 1 euro.
Oui.
On était avant. Simplement pour l'histoire, pour remettre les choses en perspective.
C'est sûr.
Quand on se pointait dans les années 90 à la Maison des artistes, qui était encore rue Berryer, si tu n'avais pas les revenus suffisants et nécessaires, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le statut professionnel. Et ça a été la première lutte, enfin du SNAP CGT, je peux vous dire. On a lutté pour essayer que les artistes soient à la Maison des artistes, parce que c'est leur statut. C'était leur visibilité, c'était leur proclamation d'artiste. Avant, ils étaient niais. Alors moi, j'avais plein de copains hein, qui étaient très bons, qui étaient en galerie et tout ça. Ils faisaient de la sur-vente fictive. C'est-à-dire que tu déclarais des choses que tu vendais, mais que tu ne les avais pas vendues. Mais pour pouvoir rentrer dans le régime. Pourquoi il fallait rentrer dans le régime? Je rappelle la règle, c'est qu'à la DRAC, par exemple, pour avoir des ateliers de la ville de Paris ou les ateliers subventionnés par la DRAC. Vous voyez, c'est que c'est complexe l'histoire. Ce n'est pas une histoire uniquement de sécurité sociale. Ça avait des implications sur la vie, la réalité professionnelle des artistes. Il fallait, pour avoir un atelier homologué ministère de la Culture, être à la Maison des artistes. Donc on faisait des trucs fictifs pour être à la Maison des artistes, pour pouvoir peut-être avoir un atelier. Il y avait un copain qui avait fait, c'était Bernard Villalonga, qui avait fait la recherche. Il fallait pour la ville de Paris attendre 27 ans pour avoir un atelier, vu le nombre de demandes et par rapport au trop peu d'ateliers qu'il y avait dans la ville. Donc c'est pour recontextualiser toute l'affaire. Ce n'était pas une affaire uniquement de sécurité sociale, c'était une histoire de professionnalité, de reconnaissance de la professionnalité de tous ces artistes. Et moi, ça a été mon combat. Et quand on a dit, premier CA, On était 19 000 et on a dit on ne partira quand on sera plus de 50 000. Et on est parti, il y avait 54 000 recensés. Il fallait que toute la population soit là. Pourquoi ? Pour gagner de la visibilité politique, pour pouvoir enfin faire entendre la voix des artistes plasticiens. Voilà, je te rends la parole. Mais il était important de remettre le contexte sur les... Bon, moi je suis une vieille barbe, c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire la première table ronde. Je suis une partie de l'histoire, donc j'ai 20 ans d'histoire, enfin avec d'autres, que je partage avec d'autres. Mais c'est important de recontextualiser les choses, parce que ça met en perspective les combats que vous allez avoir à mener demain.
Bonjour, je m'appelle Wilhelmina Huguet, je travaille en tant que juriste à la CEF, la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, depuis 2014 au sein de sa direction juridique et plus spécifiquement au sein de son service gestion individuelle. Pour la partie historique, ce qu'il faut savoir, c'est que la CEF a été créée en 99. En fait, historiquement, en France, il y a pendant très longtemps, il y a eu plusieurs sociétés d'auteurs qui intervenaient sur le domaine des arts visuels. La plus connue d'entre elles, c'est la DAGP, mais il y a eu aussi la SPADEM, qui est en fait la première société d'auteurs et le seul cas de société d'auteurs qui a mis la clé sous la porte. Par la suite, la question qui s'est posée, c'était de savoir s'il y avait un besoin d'une autre société d'auteurs, et en fait, c'est un besoin qui est remonté de la part des organisations professionnelles elles-mêmes, dans les différents secteurs, donc chez les plasticiens, chez les graphistes, chez les photographes. Plusieurs organisations professionnelles ont souhaité la création d'une société d'auteurs puisqu'ils n'étaient pas satisfaits de l'état de la représentation des auteurs des arts visuels au sein des organismes de gestion collective. Parce qu'à l'époque, du coup, il ne restait plus que la DAGP qui représentait un répertoire assez limitatif de plasticiens, de renom, essentiellement des successions, dont elle gérait le droit de suite. Or, il y avait d'autres droits en jeu en matière d'art visuel et de droit collectif, et il y avait une véritable utilité à ce qu'il y ait une représentation beaucoup plus importante des auteurs des arts visuels via le mécanisme de gestion collective. Et je parlerai un peu plus tard de l'intérêt de la gestion collective par rapport à l'amélioration du quotidien des auteurs des arts visuels, puisque c'est un peu le sujet. Donc, du coup, il y a eu cette création, en 99, de la CEF. Et l'importance que ça a eu, c'est que finalement, le répertoire de la CEF s'est développé. Nous représentons aujourd'hui en France plus de 8000 auteurs. Mais finalement aussi, ça a provoqué de l'autre côté à DAGP, aussi également le fait que beaucoup plus d'auteurs aient adhéré à la DAGP. Ce qui fait que ça a été un déclencheur pour la représentation des auteurs des arts visuels au sein des organismes de gestion collective.
Merci. Moi, je m'appelle Colline Bourret. Je suis là en tant que membre de la France Insoumise, l'Union Populaire, puisque j'ai participé à la rédaction du programme Culture de Jean-Luc Mélenchon pour les élections en 2022. Et du coup, je ne vais pas forcément parler d'historique, puisque nous, on a plutôt réfléchi à la vision politique des choses et comment on change les conditions de vie et les conditions d'existence des travailleurs et travailleuses de l'art, et notamment donc des artistes-auteurs. Ce que je peux dire en point d'introduction, c'est que le service public des arts et de la culture français, il est quand même unique au monde. C'est notre exception culturelle et c'est quelque chose qu'on doit protéger. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça fait des années, dans toutes les rencontres qu'on a pu faire pour établir le programme, tous les échanges qu'on a pu avoir, tout le monde nous dit la même chose, même ceux qui travaillent au ministère de la Culture. Ça fait des années qu'on n'a plus de politique culturelle en France. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de remettre en place ces politiques culturelles, d'avoir une vraie vision politique sur les conditions de travail des travailleurs et travailleuses de l'art, mais aussi sur les industries culturelles desquelles ils font parfois partie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la culture, c'est quand même, et notamment pour les travailleurs et travailleuses de l'art, c'est aussi un éclairage de la précarité de manière générale dans la société. On peut voir l'isolement, la pauvreté généralisée, les soucis administratifs. Tout ça, en fait, c'est un parallèle qu'on peut faire de manière générale avec l'ensemble des secteurs. Et la culture peut nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure et participe à notre émancipation collective. Donc c'est pour ça, c'est tout ce que je pourrais dérouler ensuite, mais sur la nécessité de remettre en place une vraie politique culturelle en France.
Alors, donc on va placer le dialogue qu'on va avoir. Alors, peut-être qu'on peut revenir encore un peu sur des questions comme l'historique et puis surtout ce que vous vivez aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la balance Maison des Artistes vers Limoges, hein, sur cette question-là, parce que quand même qui pose un vrai problème dans la profession, parce que on n'a plus d'interlocuteurs comme on avait avant, donc là il y a un vrai souci. Vous, quel est le problème aussi d'un point de vue personnel et comment ça a touché la structure? Tu vas nous expliciter ça brièvement. Après, toi, tu reviendras effectivement sur la gestion collective et notamment aussi, je pense qu'il faut parler de Google. Enfin, je pense que tu l'avais prévu, mais bon, voilà. Et effectivement, après, il y a toute cette question, tu as tout à fait raison de pointer les questions de le rôle de la culture, à quoi ça sert et quel est le devenir de ce que nous sommes, etc. Et on prendra le temps de dialogue, évidemment. Vous pouvez intervenir aussi dans le... Vous pouvez poser des questions, mais encore une fois, la règle du jeu, c'est que vous levez bien haut le doigt, que je vous donne le micro, parce que tout est enregistré.
Alors, nous, c'était une loi de finances, donc on l'a appris comme ça par notre directeur. Et effectivement, les gens se posaient des questions. Hein, c'est, comme je vous le disais, moyenne d'âge, plus de 50 ans. Parallèlement à ceci, on a continué à être à proximité des artistes, à faire notre travail. Hein. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le transfert. Donc, on est resté dans nos locaux pendant un peu plus d'un an. On était en soutien du Limousin pour les aider à traiter les dossiers des artistes auteurs. Ça s'est terminé le 28 février 2021. Donc après, détachement complètement, et nous, on a été intégrés dans nos tâches, dans les URSSAF, notamment, principalement à l'URSSAF d'Île-de-France, puisque le transfert principal a été l'URSSAF d'Île-de-France, dont je me suis occupé des transferts des salariés, avec Hakim Guérib également. Et effectivement, il y a eu une coupure, on a vu certains salariés comme si on leur coupait les jambes, parce que effectivement. La Maison des Artistes, et Gilles pourrait le dire, et Irène également, qui sont présentes, on était vraiment proche des artistes. Quelques problèmes qu'il y avait, on essayait de les résoudre dans la journée ou plus tard le lendemain matin. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Un jour, j'ai eu une artiste au téléphone en pleurs qui avait appris qu'il y avait un cancer. On lui avait coupé ses droits dans une CEPAM en province. On avait des référents, comme je vous le disais. On a appelé le directeur de la caisse primaire qui est tombé des nues en disant c'est pas normal. Et elle me dit, cette dame, elle m'avait dit, je ne peux pas aller voir mon spécialiste, mon mari a un cancer, moi je viens d'apprendre que j'ai un cancer, j'ai un rendez-vous cet après-midi, je peux pas y aller. J'ai dit, écoutez madame, vous allez y aller, on va intervenir. Ça s'est fait ça c'était le matin. L'après-midi à 14h, 15h, je l'ai rappelé en lui disant c'est résolu, votre carte a été réactivée, vous pouvez aller voir votre spécialiste. Voilà, c'est un exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple des indemnités journalières, c'est toujours le même problème, ça n'a pas résolu la situation. Ceci étant, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en 2015, à la Confédération de la CGT, on a mis un groupe de travail dont Pierre Garçon faisait partie, concernant ce régime, le régime des intercepteurs, et de proposer, c'était en 2015, hein, d'accord, la réforme n'était pas passée, de proposer une antenne URSSAF artiste-auteur en Ile-de-France, parce que au jour d'aujourd'hui, ça devait être 80%, à l'époque, ça devait être 70% des artistes-auteurs habitent en Ile-de-France, pour qu'il y ait un accueil physique. Ensuite, on avait travaillé sur les indemnités journalières, qui est une cellule, parce que dans les caisses primaires d'assurance maladie, et Gilles pourra peut-être me le confirmer, il y a quelques années, moi, je suis rentré en 98, mais à bien avant, il y avait dans les caisses primaires d'assurance maladie un service dédié pour les indemnités journalières au niveau des artistes-auteurs. Ces cellules ont été dissoutes. Donc après, c'est tombé sur des agents qui traitaient des indemnités journalières de monsieur et madame tout le monde, qui sont salariés et autres. Ce qui n'est pas du tout le même calcul. Donc on a travaillé sur ce projet pendant 5 ans. Il en est ressorti que, effectivement, c'était réalisable. À tout niveau, hein, de toute façon, les locaux étaient là, le personnel était là, l'informatique était là, il y avait jusqu'à. Et effectivement, on a eu des refus, pas de réponse.
Alors le personnel, il est où ?
Le personnel, alors...
Le personnel qui était sur site.
Le personnel de la Maison des artistes qui était sur site, aujourd'hui, est parti principalement dans les URSSAF, sauf 20 personnes qui sont restées aux 60 rue du Faubourg Poissonnière, qui s'occupent de l'antériorité, qui s'occupent des débuts d'activité, puisque vous pouvez le voir sur YouTube, hein, ils font des réunions d'information pour les artistes qui débutent leur activité. C'est tout. C'est tout.
Oui, oui, j'ai levé la main parce qu'en fait, 2015, c'est le moment où on rencontre Fabrice et les autres représentants de... Alors, c'est le Snap CGT. On sent qu'une réforme se profile. On se met en rapport avec les salariés pour bâtir un projet de caisse de sécurité sociale des artistes auteurs. On crée ce projet avec la Fédération des organismes sociaux, c'est-à-dire qu'on crée un projet béton qui tient la route, qui rentre dans les cases de la sécurité sociale. Et ensuite, évidemment, ce projet n'aboutit pas par refus des ministères de tutelle et aussi par le fait que d'autres organisations professionnelles n'ont pas voulu suivre ce projet qui était à vocation intersyndicale.
C'était le premier épisode des tables rondes du congrès du SNAP-CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.